It's to me, coming from California, as a Californian, there is no space on the northeast coast. It to me seemed, when I arrived in New York, it was like coming to Paris. I thought this was the most intensely urban, small space. I'd crossed the continent, and then, of course, in California, you face the Pacific, and you're very aware there of mountains and the sea. And I think any American, and I'm very typical because I was born in the South, and I grew up in California, and I immigrated to New York. I'm very aware of a continent as a whole. I suppose space really can be thought of in terms of continuity. And there, it's an old-fashioned question, really, because I think the world is all becoming alike. And there's no continuity in America, and there isn't any anywhere, really. I live in New York because New York is not really America. It's not a very good example.
La baleine n'a pas place dans les professions libérales. Il brillait maintenant comme un os blanchi. Le membre vivante, voilà ce qui fait vivante l'insulte. Elle transforma les mâchoires de la mort en chaise longue. L'injure a la dimension d'un petit rond dont le trou $1. L'aigle se détache, s'agrandit et vole. Un bruissellement d'ailes donne une main blanche au cauchemar. Et l'aigle se pose sur une branche qui sortait du tableau de Rauschenberg. Il reste là, en attendant sa liquidation. Une voix psalmodée des citations sur le USA qui précède la découverte de l'Amérique. Livre 1, une folio, chapitre 3, le dos en rasoir. Illettré. Il répondit. Mais j'ai traversé à la nage les bibliothèques. Lévi, Lévia, attends, Léviathan, franche et déposée, le cache à l'eau. Les grands cachalots règnent désormais.
Je pense que le féminisme américain est un phénomène encore extrêmement puissant. Contrairement à certains déclins qu'on peut constater en France. C'est un phénomène puissant sur un plan revendicatif qui continue et qui s'impose et qui obtient de plus en plus de satisfaction. Revendication d'augmentation de salaire, de postes, d'avantages pour les femmes, etc. Mais il est important aussi sur un plan culturel, et là je crois que nous ne connaissons pas cette dimension suffisamment, en tout cas nous ne l'avons pas suffisamment développée en France. Les femmes américaines se posent des questions culturelles. Elles veulent savoir quel est leur rapport à la pensée, à l'histoire de la pensée, à la culture. Il y a une revue récente qui s'appelle Science, qui est une revue des femmes dans la culture et qui se consacre essentiellement à la publication de travaux de femmes essayant de cerner la contribution féminine dans la culture. Ceci me paraît très intéressant à propager et à encourager. Ces travaux vont évidemment dans des directions différentes. Certaines vont jusqu'à se demander est-ce que le développement de la science, et notamment des sciences positives qui paraissent neutres comme les mathématiques n'ont pas valorisé une tendance masculine de la pensée, et en quoi consiste, cette fois sur le plan psychanalytique, le refoulement d'une certaine féminité dans le discours et dans la pensée. C'est par là que ce féminisme-là, culturel, intellectuel, rejoint des préoccupations françaises issues du lacanisme, par exemple. Et puis, il y a évidemment la production culturelle courante des femmes, qui est un phénomène très curieux également, qui est moins visible en France, peut-être pour des raisons économiques, on n'a pas les moyens de le propager, mais qui est ici très envahissant et parfois stimulant, parfois déprimant. Je pense entre autres aux films qui ont été projetés au Festival Féminin. Ce sont des films de femmes cinéastes reconnues, mais aussi d'autres qui ont fait des courts-métrages dans lesquels elles élaborent leur rapport à leur mère, leur propre histoire. Et on a l'impression de voir s'instituer une imagination de matriarcat comme dominant cette couche de la population féminine. En même temps, et sur un autre niveau beaucoup plus populaire, j'ai l'impression qu'on peut dire que le héros principal, qui pendant des siècles et des millénaires a été le héros positif mâle, l'aventurier, personnage picaresque, etc., devient la femme. Et j'en donne comme preuve un phénomène spectaculaire des médias, qui est le feuilleton de Mary Hartman, qui passe presque tous les soirs à la télévision américaine et qui a comme personnage principal une femme dont toute l'Amérique connaît les aventures, elle est suivie partout et elle condense la psychologie de l'américaine, mais on peut dire de l'américain, sur le plan de la vie privée, des angoisses personnelles, de la vie familiale, le rapport à la consommation, le rapport même aux phénomènes politiques et sociaux, etc. J'ai trouvé cette exaltation du rôle féminin, qui est d'ailleurs une exaltation ambiguë, car les groupes féminins sont divisés à cet égard. Certains trouvent que c'est une mauvaise chose de donner cette image de la femme, car c'est une image négative. Et au contraire, il faut présenter la femme sous des traits positifs, il faut donner un héros positif. D'autres trouvent que c'est un bon élément parce que ça présente la femme du système tel que la donne l'actualité, et par conséquent, ça incite les gens à réagir. Donc c'est un phénomène quand même ambigu. N'empêche que c'est là-dessus que se cristallise l'imaginaire de tout un peuple. Et je pensais qu'on trouve, sous des traits tout à fait différents, la même exaltation de la féminité comme métaphore de la population en Chine. J'étais frappée de voir que tous les films que nous avons vus en Chine étaient des films à héros principal femme, évidemment avec un autre héroïsme, avec tous les traits de la pensée maoïste valorisée dont est doté ce personnage. Ça n'a rien à voir avec le côté petit bourgeois de ce personnage principal qu'est Mary Hartman. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une métaphorisation de l'essence nationale, si on peut dire, à travers un être féminin, un personnage féminin. Et c'est assez significatif pour l'évolution de toute une culture, de toute une population, pour une mentalité.
On a le sentiment que l'espace, on ne peut pas l'avoir. Autrement dit, que quelle que soit la dimension de ce qu'on appelle la propriété, il y a la propriété privée, bien entendu, partout, l'espace est comme en réserve en lui-même ou en retrait. Au fond, il est l'inaliénable, l'incessible, il est comme... On a le sentiment qu'il est en réserve et en attente, et que par conséquent, il y a effectivement à le reparcourir sans cesse, dans des tentatives d'appropriation, mais qui sont toutes, au fond, vouées à un échec qu'elles savent bien, comme un échec de prise de possession, d'appropriation d'un espace, mais qui se retire, qui se réserve, quelle que soit la pollution, comme on dit aujourd'hui, ou l'esquintage, les griffures humaines sur cette terre. Il y a là une ressource extraordinaire d'espace. Et ça, c'est un des aspects, si j'arrivais à faire le compte systématique des grands moments d'une expérience américaine, qui passerait évidemment aussi par qu'est-ce que c'est que l'expérience du lien social, la vie sur le campus quand on est enseignant, le voisinage américain et un tas d'autres choses. Ce serait une des premières à marquer l'espace américain. Pas dans la tête, ça veut dire dans l'expérience de lire ou d'écrire, un rapport du genre de celui que j'aurais avec la littérature française ou européenne, c'est-à-dire des différences très précises de génération, d'une chronologie, hein, et une cartographie font des expériences successives des poètes américains eux-mêmes. Alors, j'ai un rapport de lecture et de traduction provoqué par les occasions. Exemple, la tentative faite par cette petite revue de poésie que j'avais imaginée il y a des années de traduire c'était très ambitieux, de traduire le Patterson, Carlos Williams, de traduire ensemble. Ah bon. Évidemment, pourquoi le Patterson? Parce qu'on est toujours dans les mêmes problèmes, c'est-à-dire le problème du syncrétisme ou de l'éclectisme, c'est-à-dire le problème d'un grand poème qui rassemble, qui met ensemble le colloquial, le journal, les conversations, et qui donc forme une espèce d'objet multiple, en même temps d'objet réduit, de micro-objet, donc de symbole, si l'on veut, d'un espace en invention, d'un espace en formation, un espace au fond, comme si on était toujours reporté au moment de la formation du langage des hommes dans leur rapport entre eux et aux choses. Bon, alors le Patterson nous fascinait, comme un de ses poèmes, peut-on les appeler au fond des espèces de microcosmogénèse, ces grands poèmes américains. En même temps, c'était pour nous l'occasion de nous associer avec deux Américains et deux Français pour essayer de traduire, c'est de faire venir cette œuvre-là. On a échoué, pourquoi? Eh bien, parce que les difficultés de la traduction ont constitué un obstacle que pour le moment, disons, on n'a pas surmonté, surtout à cause de tout ce que Carlos Williams met dans ce poème ou dans ce livre de langage qui est, disons, comme des espèces d'idiolectes ou d'argot d'immigrés récents. Alors, c'est très difficile, il faut vraiment trouver des gens qui entendent certaines de ces expressions. C'est, par exemple, la manière dont les Hongrois, au début du siècle, parlaient dans la région de New York. Des choses comme ceci. Bon. Alors, j'ai aussi traduit quelques poèmes de Robert Duncan, qui est maintenant, comme on le sait, sur la côte ouest. Mais justement, pour moi, par exemple, il n'y a pas une différence essentielle dans mon expérience, entre l'ouest et l'est, alors que chacun sait que c'est une polarité importante pour la poésie américaine. J'ai aussi eu des rapports avec ce qui s'appelle, ou prétend s'appeler, l'école de New York. En fait, ça veut dire des rapports d'amitié et de traduction avec Kenneth Scott et plus lointainement avec John Ashbery.
D'abord, le pays américain, quoi qu'il ait ses parties pittoresques, le paysage plutôt n'a pas grand-chose à offrir à l'esprit, à la sensibilité, à mon avis. C'est un espace assez neutre et inintéressant pour un touriste, mais pour un poète, c'est tout autre chose. Il y a d'ailleurs plusieurs pays aux États-Unis, la Californie est presque aussi différente New York que la Pologne est différente du Portugal en Europe, mais quand même tous les deux se trouvent en Europe. Enfin, comme je vous disais, dans l'État de New York, mais très loin de la ville de New York, et la plupart des gens dans ce village n'étaient jamais allés à New York City et n'avaient pas envie d'y aller d'ailleurs. Ils détestent l'idée de New York. Et je dis ça pour vous donner une idée du contraste entre les pays même qui se situent assez proches l'un de l'autre en Amérique. L'espace de New York est une chose qui paraît derrière la peinture new-yorkaise. Toutes les rues sont à l'angle droit. On regarde le ciel souvent puisque les lignes rectilinéaires des immeubles poussent vers le ciel. Il n'y a pas le côté gentil et poétique du ciel de l'île de France, par exemple, mais qui est très dur et net. Et aussi, on a le sens toujours d'être tout près de l'océan Atlantique qui est à côté des espaces banaux et mathématiques de New York. Il y a un autre espace qui l'entoure dont on ne sait à peu près rien. Et la lumière semble arriver directement de l'océan ici. C'est une lumière assez brutale, mais fraîche aussi. Peut-être que ce n'est pas un paysage qui a été célébré autant que le paysage de la France, par exemple, dans la littérature, dans la peinture, même dans la musique. C'est un pays qui était encore inculte, et c'est ça surtout qui a poussé tellement d'écrivains et d'artistes américains d'aller en Europe pour passer un stage, pour savourer un pays qui était pour eux, mais peut-être pas pour vous, un pays qui se raccordait avec le sentiment de la littérature. Il y a évidemment la littérature américaine, mais pour nous, cette littérature reste toujours à faire. À part quelques écrivains classiques américains, on a toujours l'impression que la poésie se fait encore, qu'elle est en train de se faire et qu'elle n'est pas encore faite.
Denise Green, l'espace de la peinture.
L'espace américain, moi, ce que je sens, c'est que les choses se groupent en masse. Donc, l'espace, on ne l'aperçoit pas. En tout cas, l'espace, c'est une chose personnelle. C'est une idée. Je ne pense pas à l'espace. L'espace n'existe pas. Ce que je cherche, c'est de faire une image où je retrouve cette sensation ou cette idée. L'espace est remplacé par la matière. C'est la matière colorée, peut-être. Et en tout cas, c'est la masse qui compte. Ce n'est pas l'espace, même ce n'est pas la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? Ça n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est la couleur. Et ça doit être la couleur qui a un sens. Et il faut trouver une couleur qui va avec un état d'esprit. Et chaque tableau représente un état d'esprit.
Dans l'université américaine, une énorme croyance au savoir, à l'autorité et à une hiérarchie des valeurs aussi bien universitaires que rationnelles, choses qui ont été mises en cause pendant les mutations étudiantes de 68, aussi bien en France qu'ici, mais qui sont actuellement presque intactes. Ceci dit, je pense que l'expérience américaine de vivre en Amérique et d'enseigner en Amérique est passionnante pour quelqu'un qui vient d'Europe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous nous trouvons ici dans un espace polytopique qui est pour moi une libération de l'enclos se constituant très rapidement en France et donnant à l'Europe un aspect provincial à cause de cette logique qui consiste à constituer des milieux, des chapelles et des unités dogmatiques. Mais aussi parce qu'on voit ici des éléments qui, d'une part, vont être transportés en Europe et bien de plus en plus. C'est la fameuse américanisation, nous allons en subir les coups. Et d'autre part, on voit des éléments qui d'Europe viennent ici. Autrement dit, on se rend compte de la nécessité que les Américains ont de l'emprunt américain. J'étais frappée de constater que ce qui est pour moi la partie des intellectuels la plus curieuse, la plus lucide et la plus inquiète, est très intéressée par le développement des courants de pensée et d'esthétique en Europe. Nous subissons en Europe les contre-coups de la culture de masse, de cette polytopie dont je parlais au début américaine, et l'Amérique a besoin de l'approfondissement, je dirais, analytique, intrapersonnel, de cette avancée au bout de la nuit de la pensée que poursuit l'intellectuel européen. Et c'est ce croisement que j'essaye de vivre en restant ici. Contrairement à cette propagation de la rationalité, de la croyance au savoir, à l'autorité, etc., qu'on trouve dans l'université, à cause de cette rencontre dont je viens de parler, je me sens plutôt en état de désir d'écriture. Ça fait écrire. L'Europe fait penser, mais Amérique fait écrire, ou en tout cas fait appel à une expérience transverbale. D'ailleurs, ses meilleurs arts sont des arts transverbaux. Je crois que ce qu'il y a de plus intéressant actuellement en Amérique, c'est la peinture, le théâtre, la danse, moins ce qui se verbalise. Ils ont besoin de notre verbe. Nous avons besoin de leur espace, de leur corporité éclatée.
Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side.
Il faudrait remonter assez loin dans le problème et voir poser le problème du rapport de l'anglais, l'anglais américain, de la langue avec la nôtre. On peut, comme vous savez, en parler en termes d'agression, de pression constante, ou non. Et là, il y a une chose qui me frappe aujourd'hui, c'est comment, et là je prends les choses par le mauvais côté, c'est comment, à partir de l'infiltration non secrète, l'agression de nos discours, et peu à peu de notre langue, si l'on veut, par des américanismes ou anglicismes, il pourrait arriver que certains écrivent ce que je pourrais appeler tout à coup une pigeon poétrie, Il y a quelque chose de tellement... disons, on sent dans certains poèmes de jeunes types aujourd'hui une fascination pour les effets de vitesse, les effets de la manière paratactique de la langue anglaise qui a l'air de faire passer le message beaucoup plus vite. On pourrait même parler au fond de l'insubordination de la langue anglaise. Je veux dire le fait qu'il puisse ne pas y avoir de subordination. Les mots, les substantifs ou les verbaux, ou un à côté des autres, faisant phrase avec moins de subordination ou sans subordination. D'où l'insubordination dans notre poésie par une espèce de mimique du phrastique américain. Cette influence peut provoquer une espèce de diminution, de risque de facilité, de dégradation, et que parce qu'on a mis quelques mots, donc quelques-uns en anglais les uns à côté des autres, on pense avoir être dans le poétique comme Ezra Pound, alors que si c'est l'occasion d'un... ou Cummings, enfin si vous voulez, tandis que si c'est pour nous l'occasion d'un effort dans la langue, non pas d'une insubordination plate, mais justement de chercher des effets de vitesse, d'éclectisme, de rapprochement, alors c'est très intéressant.
J'aime tant l'Amérique que je suis content qu'il y en a deux.
Il y avait une fois un Indien marié et père de plusieurs filles d'adolescents, à l'exception du dernier né qui s'appelait Azaré. Un jour, cet Indien était à la chasse. Les frères, les frères, les frères, les frères,